France Culture.
Réplique, la France face à l'immigration, avec Catherine Vitol de Venden et Nicolas Pouvreau-Monti. En évoquant le 27 janvier dernier, à l'Assemblée nationale, le sentiment de submersion migratoire éprouvé par un nombre grandissant de Français, François Bayrou a déclenché un tollé. Les plus indulgents ont déploré une gaffe monumentale, les plus sévères ont dénoncé une connivence inexcusable avec l'extrême droite. Un Premier ministre ne devrait pas dire ça, car il n'y a pas de sujet plus inflammable dans le débat politique que l'immigration. Le débat, pourtant, doit avoir lieu. Et pour éviter qu'il ne vire tout de suite à l'invective ou au dialogue de sourds, il faut essayer de s'entendre sur l'ampleur exacte du phénomène. Tout le monde a le droit d'avoir ses propres opinions, pas ses propres faits, disait Patrick Monihan. À Catherine Vitol de Venden, qui publie Immigration, indifférence, indignation, déshumanisation, et à Nicolas Pouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, je demanderai donc de parler chiffres. Combien y a-t-il eu, en additionnant les titres de séjour, les demandes d'asile et les entrées clandestines, de nouveaux arrivants dans notre pays en 2023 et 2024? Catherine Vitol de Venden.
Ce que je peux donner, c'est plutôt les chiffres des demandeurs d'asile, puisqu'on a autour de 135 000 demandeurs d'asile en France, pour les deux, chaque année. Mais pour les entrées autres, légales, c'est un chiffre qui ne rend pas compte de la présence des immigrés en France parce que un certain nombre d'entre eux ne vont pas rester longtemps. Je pense par exemple à des stagiaires, à des étudiants Erasmus pour 6 mois, à des saisonniers, etc. Donc si on dit 300 000 entrées, on ne rend pas compte en réalité parce que certains repartent. On a à peu près 40% de retour, notamment dans ces situations-là. Ce qui ne dit rien. Ce qui dit plus, à mon avis, c'est la proportion assez stable, en fait, d'immigrés en France. Aujourd'hui, on est à 10,7% d'immigrés en France et la moyenne européenne, c'est 10%. Donc, on est légèrement au-dessus, mais à peu près dans les chiffres de l'Union européenne. Et la proportion le nombre d'étrangers, c'est-à-dire les non-nationaux, aujourd'hui, c'est 5 millions. Donc, c'est un chiffre qui a cru, mais pas de façon considérable depuis ces dernières années.
Très bien. Alors, à votre tour, Nicolas Pouvreau-Monti.
L'estimation complète, exhaustive des entrées, elle est difficile parce qu'on se prête parfois à des sortes de double compte. Effectivement, il faut veiller par exemple à ne pas additionner les titres de séjour et les demandes d'asile parce qu'une demande d'asile acceptée donne lieu à un titre de séjour et on peut compter une même personne deux fois d'une année sur l'autre. La question qui se pose néanmoins est celle de la dynamique. Et cette dynamique, elle est établie, elle est inédite. Il est factuellement vrai de dire qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui. C'est vrai en flux et en stock, en pourcentage et en nombre absolu. Si on prend l'indicateur classique des titres de séjour, le nombre annuel de premiers titres de séjour accordés dans notre pays a été multiplié par 3 depuis la fin des années 1990. Le nombre de 336 000 premiers titres l'an dernier est un record. Le stock de titres de séjour en cours de validité, donc les titres de séjour par définition concernent des étrangers majeurs extérieurs à l'espace européen, atteint lui aussi un niveau record, 4,1 millions. C'est 35% de plus qu'en 2017, c'est 60% de plus qu'en 2012. Donc c'est une dynamique structurelle qui se consolide finalement de quinquennat en quinquennat, de mandat présidentiel en mandat présidentiel. Pour ce qui concerne l'asile, on a affaire à une dynamique qui est encore plus rapide, c'est-à-dire que le nombre annuel de premières demandes d'asile reçues dans notre pays est aujourd'hui le triple de ce qu'il était il y a 15 ans. Il y a 600 000 personnes qui bénéficient du droit d'asile en France, donc qui l'ont obtenu. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Et à côté de ça, il y a le continent inconnu des déboutés du droit d'asile. On sait, la Cour des comptes nous le dit assez régulièrement, qu'environ 9 déboutés sur 10 restent sur le territoire français après le rejet de leur dossier.
Oui, mais alors, un chiffre quand même. Combien y a-t-il eu en 2024 de nouveaux arrivants. Non, encore, il faut tenir compte de ce qu'a dit Catherine Vitel de Venden. Certains reviennent chez eux. Un chiffre. 2024, combien? Alors, en essayant aussi de dénombrer, ce qui est très difficile, les entrées clandestines.
On peut estimer qu'un étiage autour de 400 000, en incluant notamment les étrangers européens, qui ne figurent ni dans les titres de séjour ni les demandes d'asile, apparaît constituer une estimation raisonnable de ce point de vue-là. Et pour ce qui est des entrées irrégulières, là aussi la dynamique peut être tracée, même si elle l'est avec des chiffres moins incontestables qu'ailleurs. Si on prend l'indicateur classique qui réside dans le nombre des bénéficiaires de l'aide médicale d'État, l'AME, qui est donc réservée aux étrangers en situation irrégulière sous condition de ressources, le nombre de ces bénéficiaires a lui aussi triplé en 20 ans, ce qui atteste de la dynamique plus globale de l'immigration clandestine.
Dynamique globale de l'immigration clandestine et de l'immigration en général. Dans ce sens, je voudrais aussi citer Stephen Smith dans son livre « La ruée vers l'Europe ». Il dit qu'un bon tiers des médecins africains exercent dans les pays de l'OCDE et qu'entre un tiers et la moitié des Africains titulaires d'un diplôme universitaire ont quitté leur pays ou n'y sont pas retournés au terme de leurs études à l'étranger. Voilà. Mais la question, justement, à partir de ces chiffres, est-il légitime, selon vous, Catherine Vitel de Venden, de parler comme... l'a fait le Premier ministre, de sentiments de submersion migratoire, voire objectivement de submersion migratoire en France.
Alors d'abord, il faut rappeler dans quel contexte il avait prononcé ce mot qui se réfère à un vocabulaire marin. On a l'impression que les eaux des migrants nous envahissent. C'est un terme, on parle de flux, de flots, etc. C'est assez fréquent. Et c'était dans le contexte de Mayotte, faut pas l'oublier. Et donc, effectivement, sur ce département, il y avait eu, compte tenu du non seulement du cyclone Kido, mais d'arrivées régulières des personnes des Comores vers Mayotte, des arrivées nombreuses. Et d'autre part, il n'y a pas de submersion, comme je vous disais, on est dans la moyenne européenne, et je dirais que dans le monde, de toute façon, l'immigration a augmenté beaucoup, puisqu'on a beaucoup d'entrées en mobilité de gens qui ne bougeaient pas auparavant. On a eu des crises de réfugiés massives, il ne faut pas l'oublier, avec les Afghans, qui parfois continuent encore à venir jusque chez nous, les Syriens, il ne faut pas l'oublier non plus, depuis entre 2011 et 2015, mais surtout en 2015. On a eu aujourd'hui les Ukrainiens, même s'ils ne sont pas venus très très nombreux en France. Donc toute une série de nouveaux flux qui ne correspondent pas au contexte français, mais qui sont un contexte régional, européen ou mondial. Et aujourd'hui, on a 284 millions de migrants recensés par les Nations Unies. Donc selon leur définition, quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays pour une durée égale ou supérieure à un an. On avait 120 millions de migrants à la fin du XXe siècle. Donc le contexte français s'inscrit dans un contexte mondial d'accélération des flux pour des raisons de crise politique, ce sont les réfugiés, pour des raisons de recherche de la paix et éventuellement d'un avenir meilleur chez une partie des jeunes qui considèrent que chez eux, il n'y a pas d'espoir. Donc tous ces phénomènes s'inscrivent dans un contexte mondial et on ne peut pas imaginer que la France, avec ses frontières à l'intérieur de l'Europe, puisse seule faire face à une réalité qui est mondialisée, qui fait partie de la modernité. Il ne faut pas l'oublier, la mobilité, ça fait partie de la modernité aujourd'hui. Et le monde entier bouge, donc il bouge aussi vers la France.
Nicolas Pouvron-Monty.
Dans le contexte français, la notion de submersion emporte évidemment une charge politique, polémique. Elle implique un regard critique sur la politique d'immigration qui a été menée ces dernières années, ces dernières décennies. On est libre d'y souscrire ou non, mais il me semble qu'il y a au moins, à côté des dimensions quantitatives que nous évoquions précédemment, trois grands facteurs qui peuvent contribuer à ce que ce concept finalement rencontre un écho dans l'opinion. Le premier, c'est celui de la distance culturelle entre les sociétés de départ et les sociétés d'accueil.
Oui, parce que une grande majorité de nouveaux arrivants vient du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, n'est-ce pas ?
C'est-à-dire que la France a la singularité d'accueillir l'immigration la plus africaine d'Europe, trois fois la moyenne de l'Union européenne pour ce qui est de la part des immigrés originaires d'Afrique dans le total des immigrés. Parmi ces immigrés originaires d'Afrique, effectivement, 6 sur 10 viennent du Maghreb, les plus nombreux étant les immigrés originaires d'Algérie, dont la moitié sont arrivés en France après l'an 2000, ce qui montre que l'immigration algérienne est à la fois une immigration ancienne, mais qui est toujours en dynamique. Et ce qui est notable depuis les années 2000, c'est aussi la poussée de l'immigration subsaharienne. Le nombre d'immigrés originaires d'Afrique subsaharienne en France a doublé depuis 2006, donc cet enjeu de distance culturelle, il peut être spécialement marqué en France. Le deuxième facteur qui peut trouver écho dans cette notion de submersion, c'est sans doute celui de la pression sociale et de la saturation portée sur un certain nombre de dispositifs de solidarité. On sait que, grâce aux données de l'INSEE, que la moitié des bénéficiaires de l'aide alimentaire en France sont des immigrés. La moitié des personnes hébergées dans le système d'hébergement d'urgence du parc de l'État sont des immigrés en situation irrégulière. On pourrait multiplier les indicateurs de ce type-là qui indiquent un effet d'éviction, un enjeu de saturation qui peut être perçu de manière vive par nos concitoyens. Et puis peut-être un troisième facteur, c'est celui de la diffusion géographique de l'immigration dans le pays. Pendant très longtemps, les débats sur l'immigration se sont symboliquement concentrés sur quelques régions spécifiques, les grandes agglomérations, la côte méditerranéenne, les régions industrielles. Or, l'un des faits notables de ces dernières décennies, c'est la poussée de l'immigration dans des territoires qui étaient jusqu'à présent peu concernés. C'est notamment le cas des territoires du Grand Ouest.
Oui, alors justement, beaucoup d'immigrés viennent en France, en Europe en général et en France en particulier, parce qu'ils veulent une vie meilleure.
Oui, c'est ce que je dis.
La question qui se pose, c'est de savoir s'ils veulent aussi une vie européenne. Christopher Caldwell, dans son livre qui pose la question, rappelle qu'en 2002, un imam de Roubaix a refusé de rencontrer Martine Aubry, la maire de Lille, dans son quartier, déclarant qu'il s'agissait d'un territoire musulman et qu'il serait haram, impur, de l'y accueillir. Bon, ça c'est peut-être un phénomène très très marginal. Il n'en reste pas moins que la question du séparatisme culturel se pose en France, et puis aussi, puisque Nicolas Pauvremonti l'a dit, l'immigration s'est diffusée dans tout le territoire, il y a aussi des phénomènes d'affrontement, de violence, avec les policiers, que ce soit à Tremblay, à Avignon, à Dijon, à Rennes, à Grenoble, et à Marseille, et d'autres villes encore. Donc vous dites que si les gens refusent l'immigration, ça procède d'une peur de l'autre, refusent en tout cas, veulent un meilleur contrôle des frontières, ça procède d'une peur de l'autre. Est-ce qu'on peut s'en tenir à cette explication ?
Alors la peur de l'autre, elle a toujours existé. Il ne faut pas oublier qu'on a eu des affrontements violents conduisant à des morts au XIXe siècle. Les plus connus, c'est la tuerie d'Aigues-Mortes, par exemple, 1893, où les ouvriers français ont tué les ouvriers italiens des Salines parce qu'ils considéraient que ça leur faisait concurrence sur le marché du travail. Si on reprend Germinal dans Zola, on voit la violence des ouvriers français à l'égard des Belges qui étaient considérés comme des jaunes, des gens qui ne faisaient pas la grève. Et donc, la violence à leur égard était également très forte. Et on en a eu beaucoup aussi dans l'entre-deux-guerres, à l'égard de diverses catégories de migrants. À l'époque, le débat il se situait plutôt sur, finalement, les catégories sociales. Et aujourd'hui, on a tendance à ethniciser le débat. Il ne faut pas oublier que la majeure partie des immigrés aujourd'hui, ils font partie de la catégorie des pauvres. Et les pauvres, ils ont toujours été plus nombreux à être dans les prisons, dans les rixes de rue, dans toute une série de contextes. Mais aujourd'hui, comme on ne parle plus de la lutte des classes, dont je n'ai jamais, à laquelle je n'ai jamais souscrit nécessairement pour analyser l'immigration, mais c'est quand même, on a oublié la dimension sociale de l'immigration. Et l'autre aspect, c'est le progressif abandon par les politiques publiques d'intégration pour éviter l'appel d'air et pour dissuader, qui est une sorte de doxa chez les décideurs, de toute une série de gens qui se retrouvent dans la rue, mais qui ne devraient pas, parce que légalement, par exemple, les demandeurs d'asile, ils ne devraient pas dormir dans la rue, ils devraient être dans les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile.
Mais il n'y a comme plus de place.
Voilà, il n'y a plus de place. Donc on ne veut surtout pas en rajouter, parce que sinon, paraît-il, ça va attirer de nouvelles personnes. Aussi, pour l'accès au travail, en Allemagne, il y a une directive européenne de 2014 qui dit que tous les demandeurs d'asile doivent travailler, et en France, on le refuse systématiquement, alors qu'en Allemagne, ils travaillent tous, parce qu'on ne veut pas attirer des gens qui viendraient non pas pour l'asile, mais pour le travail, alors qu'ils ont le droit de travailler. Donc on crée d'une certaine façon l'indésirable par le jeu des politiques publiques. Et on a aussi, bien sûr, abandonné les médiateurs de terrain, le Fonds d'action sociale qui a disparu, tous ces éléments qui étaient très utiles, notamment dans les banlieues, pour lutter contre des affrontements et pour essayer d'arriver à une paix sociale beaucoup plus réussie. Donc tous ces phénomènes se sont additionnés dans les années récentes.
Oui, vous parlez d'affrontements, c'est intéressant parce que vous citiez, Catherine Vitton-Levandani, des violences exercées à l'égard des immigrés à la fin du 19e siècle. Mais là, il y a des violences de plus en plus fréquentes, venues, sinon des immigrés, du moins des jeunes issus de l'immigration, dans un certain nombre de lieux. Donc, si vous voulez, la violence s'est presque inversée aujourd'hui.
Il y avait aussi sans doute beaucoup de rixes entre Italiens. Et puis Pierre Milza, par exemple, dans ses travaux sur les Italiens, il dit qu'ils étaient considérés comme des barbares parce qu'ils se battaient, on disait qu'ils avaient le couteau facile, qu'ils se battaient aussi entre eux. Mais ça existait, faut pas l'oublier.
Très bien, Nicolas Pouvremonti.
Il me semble effectivement que cette dimension sociale de la question migratoire, même si elle est très loin d'épuiser le sujet, est essentiel. Et il me semble qu'à cette aune, qu'on doit pouvoir regarder en face une réalité qui là aussi est peu réjouissante. L'immigration accueillie en France est en moyenne plus pauvre que celle accueillie chez nos voisins. Elle est en moyenne moins intégrée au marché du travail. Deux données à ce propos, des données au CDE 2020. On a presque la moitié, 48% des étrangers extra-européens en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un taux 4 fois supérieur à celui des Français. On revient au thème de la pression sur certains dispositifs de solidarité. Et on avait aussi en 2020 à peine la moitié, 51,6% des étrangers extra-européens en âge de travailler qui occupaient effectivement un emploi en France. C'était 14 points de moins que les Français. Et ces difficultés sociales, elles ne disparaissent pas à la deuxième génération. De ce point de vue-là, toujours les données de l'OCDE nous permettent de voir que la part des jeunes nés en France de parents immigrés qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, est la deuxième plus élevée du monde occidental, puisque la Belgique nous bat de 2 points, si je puis dire. Et donc ces questions-là sont essentielles. Mais elles renvoient à une dimension strictement politique qui est la capacité, ou plutôt l'absence de capacité aujourd'hui, à choisir l'immigration qu'on reçoit. On évoquait à l'instant les 336 000 premiers titres de séjour accordés l'an dernier. Sur ce total, il y en a à peine une moitié qui relève vraiment d'un choix politique. C'est l'immigration professionnelle, c'est l'immigration étudiante. Le reste, c'est-à-dire l'immigration familiale, l'immigration humanitaire pour motif d'asile, elle est régie en haut par des grands traités surplombants et en aval par des juges qui interprètent ces traités.
Quand même, là c'est une question que je vous pose à tous les deux, mais d'abord vous, Nicolas, pour vous remonter. Dans votre description, quelle part faites-vous au séparatisme? C'est ce que disait Elisabeth Badinter, je le cite de mémoire, une seconde société tend à s'imposer dans notre République, tournant le dos à ses principes et visant le séparatisme, voire la sécession, le tout avec notre complicité active ou passive. Je cite Elisabeth Badinter parce qu'il est difficile de la classer à l'extrême droite. Est-ce que c'est quand même pas le problème le plus actuel de cette immigration que, et là nous le verrons, nous avons tant de mal à contrôler?
C'est l'une des dimensions essentielles du problème et on touche là à une autre singularité française qui est que la France a aujourd'hui sur son sol la population musulmane la plus nombreuse d'Europe, puisque lorsqu'on parle de séparatisme, c'est souvent de cela dont on parle, c'est-à-dire un séparatisme à motif religieux, à motif religieux islamique en l'occurrence, et on ne peut pas séparer cette question de celle de l'immigration. C'est-à-dire que aujourd'hui en France, la quasi-totalité des personnes qui se déclarent musulmanes sont soit des immigrés elles-mêmes, soit des descendantes d'immigrés. On a 44% des immigrés en France qui se déclarent musulmans, 32% des descendants d'immigrés. C'est à peine 1% des Français sans ascendance migratoire. Et il est évident que la dynamique démographique de l'islam en France et les enjeux d'intégration qu'elle peut emporter sont très intimement corrélés à la dynamique des flux migratoires.
Alors justement, que pensez-vous de cela?
D'abord, les premières en chiffres parmi les entrants, ce sont les premiers et les plus nombreux, ce sont les étudiants, faut pas l'oublier, parce que les universités, elles veulent internationaliser leurs profils, même les plus modestes, et donc aujourd'hui, depuis plusieurs années, comme en Europe, les premières entrées légales, ce sont les étudiants. Ensuite, ils sont suivis par les réfugiés. On est signataire en France, comme dans tous les pays européens, de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, donc on doit les accueillir. Ça, c'est le deuxième flux. Le troisième flux, c'est le regroupement familial. Et le quatrième, c'est l'immigration de travail. Et comme en France, comme dans beaucoup d'autres pays européens, sauf l'Allemagne qui en est sortie, le Royaume-Uni aussi de ce modèle, on ne veut pas aborder la question de la réouverture des frontières à l'immigration de travail selon des critères notamment qui correspondent aux situations du marché. On a une liste assez modeste de métiers en tension qui a été fournie par le ministre de l'Intérieur, quand même de 14 pages, il faut le dire, pour les 12 régions françaises qui est sortie il y a quelques semaines. Comme on ne veut surtout pas aborder le tabou de l'ouverture de l'immigration, de la politique migratoire à l'immigration de travail, ben, on a des gens qui sont entrés un petit peu, qu'on n'a pas nécessairement choisi. Et ça, c'est un énorme problème en termes de profil, de qualification dont on parlait tout à l'heure.
Oui, mais alors justement, si on ne veut pas aborder ce thème de l'immigration de travail, en effet, c'est peut-être parce que on estime qu'il y a un seuil de tolérance et que ce seuil de tolérance a été franchi, d'où la nécessité de ne pas ouvrir un autre pôle, si j'ose dire, d'immigration. Que pensez-vous, Catherine Vittel de Vendem, de ce concept de seuil de tolérance?
Il a été très critiqué par mes collègues sociologues parce qu'on disait que finalement, on ne peut pas l'apprécier, le seuil de tolérance, ça dépend de chacun, de son sentiment. Certains collègues ont parlé d'islam d'atmosphère, comme dit Gilles Kepel, qui était un collègue et ami. Également, Laurent Bouvet parlait de l'insécurité culturelle, mais comment mesurer ce genre de sentiment? Ça va changer entre vous et moi, entre beaucoup de gens, selon les lieux où ils habitent et les contexte dans lesquels il se trouve. Donc ça, on ne peut pas le mesurer, c'était très critiqué. Et le premier qui a utilisé publiquement ce terme, c'est François Mitterrand, qui parlait effectivement de seuil de tolérance, et ensuite ça a été fortement critiqué en disant le seuil de tolérance, comment le mesurer. Donc ça, c'est un premier point. D'autre part, quand on parle de ce sentiment sur notre territoire, de la peur de l'autre, on a souvent tendance à mélanger deux choses différentes qui sont l'immigré, au sens statistique du terme, celui qui est entré, venu de son pays, et puis les générations, les deuxièmes, ce qu'on appelle les deuxièmes ou troisièmes générations. Et c'est tout à fait un autre contexte. Alors d'une part, François Héran, dans ses travaux et ses cours au Collège de France, dit que globalement, l'immigration s'intègre avec toute la batterie de données de l'Institut national d'études démographiques, dont il était le directeur. D'autre part, cet islam d'atmosphère ou alors ce rejet de mode de vie séparatiste, c'est plutôt le fait de générations issues de l'immigration, mais les immigrés ont toujours été, ou leurs enfants, séparatistes. On se protège, surtout si on arrive dans un territoire inconnu. C'était le cas des Italiens, des Portugais et de beaucoup d'autres qui sont arrivés auparavant.
Bon, alors, est-ce que nous sommes dans le même cas de figure, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de profondément nouveau aujourd'hui, Nicolas Pouvomonti, et surtout également, que pensez-vous, en tant que directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, du concept de seuil de tolérance? A-t-il une validité?
Pour ce qui est du caractère inédit ou continu des phénomènes auxquels nous avons à faire face, je pense qu'il y a deux types de différences. D'abord, une différence fondamentale dans la nature de l'immigration reçue. On évoquait les singularités géographiques et culturelles de l'immigration en France, mais aussi une différence de contexte beaucoup plus structurelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous vivons dans un monde hypermobile, hyperconnecté, avec des phénomènes de diaspora très puissants, des liens au pays d'origine et à la culture d'origine qui peuvent se maintenir sur le long terme par cet effet d'hyperconnexion et par ne serait-ce que la facilité des voyages. Un immigré italien qui s'installe en France en 1900, il ne retourne pas dans son pays tous les 6 mois pour y passer des vacances, donc il est finalement dans le bain de la société d'accueil. Et pour ce qui est de la notion de seuil de tolérance, évidemment, elle n'a pas été définie scientifiquement. Je pense néanmoins qu'elle fait écho à une perception empirique très forte d'un certain nombre de nos contemporains, qui est celle du changement démographique rapide de nos sociétés. Et de ce point de vue-là, un angle de vue intéressant est celui des naissances. En 2023, en France, pour la première fois, plus de 30% des naissances ont été issues d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne. C'est évidemment un phénomène tout à fait inédit. Depuis l'an 2000, le nombre annuel de naissances issues de deux parents nés en France a baissé de 28%, donc de plus d'un quart. Et dans le même temps, le nombre de naissances issues d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne a augmenté de 36% et même 73% quand les deux parents sont nés hors UE. Des chiffres abstraits qui font écho à des constats empiriques et souvent très charnels de la part de nos compatriotes.
Sur le seuil de tolérance, j'ai sous les yeux le livre de Jean Daniel, Réconcilier la France, dans lequel il fait état d'une conversation avec Claude Lévi-Strauss, qui utilisait ce concept. C'est pas sociologue, il est ethnologue, et il n'est pas d'extrême droite. Pas plus donc qu'Élisabeth Badinter. Il dit ceci, le seuil de tolérance n'est pas un concept de droit, mais c'est bien un combat de fait. Cela existe. Il faut que l'enrichissement par l'autre soit dosé, planifié. L'existence d'une communauté se définit par la distinction entre le moi et l'autre. Quand cette distinction disparaît, c'est toute l'identité du moi qui est menacée, et d'abord sa créativité. Est-ce qu'il ne faut pas prendre en considération cette réflexion de
Lévi-Strauss ? D'admiration pour les travaux de Claude Lévi-Strauss. Je vous remercie de l'avoir évoqué. Ce que je voudrais dire, c'est que, enfin, d'une part, en France, on a un Français sur quatre a un parent ou un grand-parent issu de l'immigration, parce qu'on est un grand pays d'immigration en Europe qui s'ignore. Je pense que c'est ça qui est très important. Et à partir du moment où on ne considère pas qu'on est un grand pays d'immigration, le plus ancien en Europe, puisque ça a commencé en 1850, alors que dans les autres pays européens, en 1950, par exemple pour l'Allemagne, et dans les années 1970 pour le sud de l'Europe, ben ça c'est un phénomène. Il faut accepter la réalité. Deuxième point, les Français, on est les champions des mariages mixtes en Europe aussi. Donc finalement, il y a peut-être un seuil de tolérance, mais il y a aussi un seuil de convergence, si j'ose dire, puisqu'on a toute une série, de pas seulement de constats comme celui-ci, mais de sondages qui montrent que si on interroge mes collègues qui s'appellent Vincent Tibéry, dit finalement, si on interroge les gens sur toute une série d'éléments, bah, ils ne sont pas aussi racistes qu'on ne le croit et pas aussi...
Est-ce que vous pensez que le seuil de tolérance est un concept raciste ?
Non, c'est une protection peut-être, mais ça peut être une forme de racisme aussi, en disant, moi je tolère pas que mon voisin soit comme ceci, comme cela, etc. Mais c'est très subjectif en réalité. Mais en même temps, il y a beaucoup de mariages mixtes. En même temps, il y a beaucoup de créativité, pour reprendre votre terme. Si on avait complètement fermé notre pays à l'immigration, on n'aurait pas eu Gustave Eiffel, qui était d'origine allemande. On n'aurait pas eu Pablo Picasso, des quantités de grands couturiers comme Pierre Cardin et Balenciaga et beaucoup d'autres. La musique populaire aujourd'hui est une musique issue des banlieues. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une très grande créativité dans cette confrontation de l'autre avec la société et cette aussi fusion en réalité des cultures qu'il ne faut pas nier.
Qu'il ne faut pas nier. Mais alors, puisque vous citiez Gilles Kepel,
oui.
J'ai sous les yeux son livre « Passion française », « Les voix des cités ». Et il y a un passage qui m'a beaucoup troublé, qui concerne la marche des beurs.
Oui, absolument. Sur laquelle j'ai fait un livre qui s'appelle La Beurgeoisie.
Voilà, La marche des beurs 1983, je crois.
Oui, 83, voilà.
Et qui a eu un très grand écho. Et il dit ceci, il y a une réislamisation des beurs et aujourd'hui, ils rejettent avec horreur ce vocable médiatique, tenu au mieux pour méprisant à leur endroit, au pire pour un complot sioniste destiné à faire fondre comme beurre leur identité arabo-islamique dans le chaudron des potes de SOS Racisme touillés par l'Union des étudiants juifs de France. Et on peut dire qu'après le déclenchement de la guerre à Gaza, les choses ne se sont pas arrangées. Donc il faut quand même aussi tenir compte de ces phénomènes. C'est pas une preuve de créativité très convaincante.
Il faut pas oublier que la marche des beurs, initialement, elle s'appelait marche pour l'égalité contre le racisme. Ça avait été créé par des jeunes des banlieues, partis à pied de Marseille pour se retrouver à Paris et reçus par le président de la République de l'époque qui était François Mitterrand, qui d'ailleurs a accordé la carte de 10 ans qu'ils demandaient, non pas pour eux, parce que beaucoup étaient des doubles nationaux, mais pour leurs parents. Et que c'était une réaction à toute une série d'exactions qui avait eu lieu avec des jeunes et parfois des enfants qui avaient été tués dans les banlieues, notamment dans la banlieue lyonnaise, dans les confrontations avec la police. Et ces jeunes, parfois, ils avaient 5-6 ans. Donc c'était des bavures policières qui les avaient frappés et qui avaient frappé ces familles. Donc c'est ça l'histoire de la marche des beurs. Et ils réclamaient des droits, c'est-à-dire lutter contre le racisme ordinaire, plus d'égalité pour l'accès à l'emploi, notamment, parce qu'un des problèmes aussi, c'est le racisme au travail, si j'ose dire. Et donc, ensuite, SOS Racisme a été créé, encouragé, sans doute par le gouvernement, et certains de ses créateurs étaient des gens de culture juive, mais pas plus que ça, surtout des laïcs.
Oui, mais que sont-ils devenus aujourd'hui ? C'est la question. Mais bon, là, je voudrais aussi, Nicolas Pouvremonti, vous poser une question sur ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, dans la situation que nous vivons, avec ces fractures, cette archipélisation de la société française, comme dit Jérôme Fourquet, faut-il une politique plus radicale de contrôle des frontières ? Faut-il ralentir l'immigration et, disent certains, l'arrêter même pour permettre l'intégration des immigrés qui vivent en France, à un moment même où cette intégration, on le voit à l'école, est en crise.
Peut-être pour rebondir un seul instant sur le propos de Madame Vittel-de-Vendenne, effectivement, les mariages mixtes en France sont une réalité statistiquement attestée, avec néanmoins de fortes divergences selon les populations immigrées. Et je pense que c'est aussi un point important. Il y a des immigrations en France dont les trajectoires d'intégration sur une, deux, trois générations peuvent être très différentes. Si on prend effectivement le niveau d'endogamie, puisque c'est de ça dont il s'agit, on sait que à peine 15% des descendants d'immigrés originaires d'Asie du Sud-Est, vietnamiens, cambodgiens, laotiens, épousent un conjoint de la même origine qu'eux ou qu'elles. À l'inverse, c'est 90% des jeunes femmes d'origine turque. Donc on voit qu'il y a aussi des rapports différenciés à l'intégration de ce point de vue-là. Pour ce qui est de la réponse politique au problème de l'immigration, je pense qu'il faut se garder de deux réflexes très présents dans le débat public. Le premier, c'est une forme de naturalisation du phénomène. Il y aurait de l'immigration comme il y a de la pluie et du soleil. Il serait absurde de vouloir avoir une quelconque action politique sur le réel en la matière. Or, l'immigration me semble être un sujet politique par excellence. Il est même au cœur de ce qu'est la nature de l'État régalien, la capacité à avoir un contrôle politique sur un territoire, sur ses frontières et sur les individus qui choisissent d'y entrer ou de s'y installer. Le deuxième écueil à éviter, c'est, pour emprunter au vocabulaire des questions environnementales, c'est une forme de rassurisme qui consiste à expliquer finalement que tout va bien et que ce qui ne va pas bien ira mieux demain par le jeu du temps qui passe et des générations. On a pu dire à l'instant que ce n'était pas le cas. Donc il me semble que la capacité à reprendre une marge de contrôle démocratique sur l'immigration, elle fait aujourd'hui consensus dans l'opinion française, mais aussi dans l'opinion européenne. Et Madame Vittel-de-Vendenne écrit dans son livre à juste titre que l'Europe est devenue ces dernières années un continent d'immigration malgré lui. C'est une tension démocratique qui me semble pas soutenable sur le long terme. Cette reprise en main démocratique, elle ne se fait pas facilement. Il y a un certain nombre de marges de manœuvre que garde le politique aujourd'hui. Sur la nationalité, on pourra y venir. Il n'y a pas de contrainte européenne en la matière, par exemple. Mais ça impliquera assez vite d'en venir au grand cadre structurant que sont les traités européens et les traités internationaux qui, dans leur état actuel, n'apparaissent plus forcément adaptés à la réalité et à l'ampleur des flux migratoires au niveau mondial.
Alors, vous êtes d'accord, vous, Catherine Thauvin, pour une politique de contrôle de l'immigration ou non ?
Oui, moi je pense qu'il faut toujours contrôler l'immigration, mais en même temps, paradoxalement, il faut ouvrir davantage les frontières à certaines catégories de personnes. Les pays qui sont considérés comme ayant les meilleures politiques migratoires au monde, j'aurais tendance à citer le Canada, ou la Suisse, ou éventuellement le Luxembourg. Ces pays, ils ont une politique très active d'immigration de travail. Et il faut que les gens entrent dans les catégories des travailleurs souhaités, qualifiés, moyennement qualifiés, peu qualifiés, pour pouvoir entrer. Donc, aujourd'hui, en France, notamment, mais pas seulement, et dans le pacte européen sur l'immigration et l'asile de 2024, dans lequel en 4 ans, ils n'ont réussi à mettre d'accord l'ensemble des Européens, les 27, que sur l'asile. Ils n'ont même pas eu le temps de traiter, ou peut-être qu'il y avait un grand tabou sur le traiter l'immigration de travail à l'échelon européen. Ils n'ont traité que l'asile. Si on ne traite que l'asile, on ne fait rien. À mon avis, je l'ai dit, écrit, etc. Et j'ai eu le plaisir de constater que Fabienne Keller, qui s'occupait du pacte au Parlement, elle a signé un article dans Le Monde, après avoir travaillé 4 ans très activement sur ce pacte, que finalement, il fallait quand même ouvrir l'immigration de travail, et elle avait l'air d'en être tout à fait convaincue avec Valérie Hayer, plutôt que ne rien dire sur l'immigration de travail. Si en Europe, on avait une politique européenne relative à l'immigration de travail pour les entrées légales, on aurait moins de gens qui traversent la Libye en se faisant massacrer, moins de morts en Méditerranée. Il ne faut pas oublier que chaque année, on a entre 2000, 3000 morts en Méditerranée, qui est devenu un cimetière, et il faut afficher...
C'est pas tout à fait devenu un cimetière, c'est-à-dire le nombre d'immigrés sauvés en Méditerranée.
Est important, c'est mais il y a quand même beaucoup de morts qui sont des jeunes et ça frappe pas beaucoup les gens. J'en parle dans le livre. Je pense que si on ouvre l'immigration de travail, surtout on aura des gens qui correspondent mieux aux catégories précisément parce qu'ils ne tenteront pas l'asile alors qu'ils veulent entrer pour travailler. Ils ne tenteront pas le profil du touriste, etc. Et on aura une immigration qui correspondra au texte, c'est-à-dire d'un côté la demande d'asile, de l'autre côté les gens qui viennent pour travailler, de l'autre côté le regroupement familial, les étudiants, etc. Et c'est ça qu'il faut. Il faut afficher le fait qu'on est un pays d'immigration, comme tous les pays européens, et qu'on a une immigration qui correspond aux traités qu'on a signés et aux besoins que l'on a sur le marché du travail. Il y a des secteurs en tension, c'est très connu, on en parle beaucoup, mais finalement, on va très subrepticement envoyer une liste comme ça. Mais il faut assumer l'immigration de travail, sinon toutes les catégories sont confondues.
Donc, pour contrôler, il faut ouvrir, c'est ce que je vous ai
Voilà, paradoxalement, je le dis depuis longtemps.
Voilà, pour contrôler, il faut
ouvrir plus. Plus à certaines catégories.
À certaines catégories.
Sinon, ceux qui sont en situation irrégulière vont s'installer, parce qu'ils ne peuvent plus repartir. Plus les frontières sont fermées, plus les gens s'installent, ça a été démontré des quantités de fois, et moins ils repartent. Si l'immigration est plus souple, plus ouverte, c'était le cas pour les gens de l'Est, ils font des allées-venues.
Alors, ce que je remarque aussi, c'est que sur l'immigration, les moralistes, si je puis dire, et les réalistes font cause commune. SOS Méditerranée et le MEDEF sont d'accord pour ouvrir.
Oui, bien sûr.
Et donc, ils s'accordent sur l'idée que les hommes sont interchangeables. À l'ère de la technique, être, c'est être remplaçable, disait Heidegger. L'humanitarisme et le capitalisme souscrivent l'un et l'autre à cette ontologie. Mais justement, est-ce que nous ne faisons pas le constat quotidien que les hommes ne sont pas interchangeables et qu'il y a, comme disait Hugues Lagrange, un autre sociologue, un choc des cultures? Nicolas Pouvremonti.
Il me semble qu'on peut le constater dans la plupart des sociétés démocratiques et libérales. Et la question est de savoir si cette ethos démocratique et libérale, si des institutions démocratiques et libérales peuvent perdurer au-delà de la culture qui les a vues naître et qui les a portées. Pour ce qui est de la situation en Méditerranée qu'évoquait Madame Vitold-Vinden, c'est évidemment une situation dramatique. Il n'en demeure pas moins qu'en la matière, bien souvent, qui fait l'ange fait la bête. C'est-à-dire que l'Europe est déjà aujourd'hui la zone la plus tolérante du monde envers l'immigration irrégulière. La perspective d'atteindre les côtes européennes et d'y être prise en charge est un facteur de motivation puissant à prendre le risque immense, gigantesque de la traversée, parce qu'il y a ce risque immense de la mort et il y a en même temps l'opportunité immense d'atteindre les côtes européennes. Une manière de réduire les risques en la matière, ça peut être simplement de fermer ou de réduire les perspectives d'accueil. De ce point de vue-là, l'exemple australien est quelque chose d'intéressant. Depuis la fin des années 2000, l'Australie a mis en place un programme qui s'appelle Solution Pacifique, puis qui a changé de nom depuis, et qui est fondé sur l'idée selon laquelle un demandeur d'asile qui tente d'entrer de manière irrégulière en Australie, par la mer en l'occurrence, ne sera pas amené sur le territoire australien. Il est pris en charge dans un centre d'instruction à l'extérieur, donc à Nauru et en Papouasie. S'il a l'asile, il est ensuite amené en Australie et sinon, il reste en rétention. Et on a pu constater une baisse drastique du nombre de traversées et donc du nombre de morts. À ma connaissance, il n'y a pas de morts enregistrées dans les traversées irrégulières vers l'Australie depuis au moins une décennie. Et pour ce qui est d'ouvrir des voies légales d'accès à l'Union européenne, il me semble qu'on le fait déjà assez largement depuis 10 ans. C'est-à-dire que le nombre annuel de premiers titres de séjour accordés dans les États de l'Union européenne en 2023 était de 3,7 millions. C'était 1,5 million une décennie auparavant. Donc on voit que cette ouverture des flux, finalement, non seulement elle ne me semble pas tarir les flux irréguliers, mais elle importe aussi un phénomène d'entraînement, parce que dans les flux irréguliers, il y a cette dimension de diaspora, cette dimension de rejoindre des proches ou de la famille ou des connaissances qui sont déjà en Europe et qui peuvent y être installés, eux, de façon régulière.
Alors justement, on parlait du concept de seuil de tolérance, et vous dites que paradoxalement, pour mieux contrôler, il faut ouvrir à certains immigrés. Mais alors, je vous demanderai votre avis à tous deux sur un autre concept qui a ressurgi dans le débat, celui de préférence nationale. Quel crédit accordez-vous à cette idée de préférence nationale, Catherine Vito?
Aucun, si j'ose dire, puisque c'est un thème qui a existé aussi dans l'entre-deux-guerres, dans les courants de l'extrême droite, il ne faut pas l'oublier. Il y avait des manifestations de médecins dans le quartier latin. À l'époque, ce n'étaient pas les mêmes immigrés qui étaient considérés comme des indésirables. C'était ceux qui venaient souvent d'Europe centrale et orientale, qui étaient très diplômés, les avocats, les médecins, et les ordres professionnels, disons, dénonçaient cette arrivée massive, entre guillemets, de médecins. Et il y a même des photos qui ont été prises dans ce quartier de manifestations très violentes du côté de la Sorbonne contre ces médecins et de ces avocats futurs, souvent teintés d'antisémitisme, il ne faut pas l'oublier. Donc on a tendance à oublier ça. Donc on disait, il faut la préférence nationale, déjà. Et puis ça a été pratiqué dans la période sombre quand même aussi de Vichy. Un certain nombre de gens qui voulaient passer des concours, c'était le cas d'ailleurs de mon père, s'ils étaient fils d'étrangers, ils ne pouvaient pas passer certains concours de la fonction publique. Et on revient à ça, ce qui va créer, à mon avis, des crises très violentes dans les banlieues. Il n'y a pas mieux que renvoyer les gens s'ils ne peuvent pas accéder au travail, que de les renvoyer à la radicalisation, à toute une série de trafics de drogue et d'autres phénomènes, s'ils n'ont pas accès au marché du travail parce qu'ils sont étrangers ou éventuellement des gens qui sont peut-être des doubles nationaux mais qui n'ont pas activé, puisque c'est le projet aussi du volontarisme pour devenir français. Donc ça me paraît extrêmement dangereux dans notre contexte de France, pays d'immigration.
Alors, que pensez-vous vous-même, alors, Nicolas Pouvolanti,
de
ce concept de préférence nationale?
Bien sûr, il me semble qu'il ne faut d'abord pas appeler préférence nationale ce qui n'en relève pas. C'est-à-dire qu'il y a eu, lors de l'adoption par le Parlement de la loi immigration en décembre 2023, cette idée que le Parlement avait voté la préférence nationale. Or, ce que contenait cette loi, c'est un délai de carence pour l'accès aux prestations sociales des étrangers extra-européens, délai de carence qui est un délai de résidence. C'est-à-dire que ce que prévoyait la loi, c'était que au terme de 5 ans de présence, réduit à 2 ans et demi pour les étrangers extra-européens qui travaillent, ces étrangers auraient accès aux prestations sociales non contributives, l'aide au logement, l'aide à l'autonomie des personnes âgées, etc. Là, c'était bien un critère de contribution au système de solidarité, c'est pas un critère de distinction sur la nationalité. La préférence nationale, c'est bien ça, c'est le fait de réserver de manière exclusive ou prioritaire un certain nombre de droits politiques, économiques ou sociaux aux citoyens d'un pays. On peut remarquer qu'il y a déjà des formes de préférence nationale qui existent dans certains aspects du droit. Seuls les Français peuvent voter, les Européens aux élections municipales. Seuls les Français et les Européens peuvent passer les concours de la fonction publique. Et le Conseil constitutionnel, qui on ne peut pas reprocher d'avoir une jurisprudence extrêmement restrictive sur les sujets d'immigration, oui, a eu l'occasion de rappeler dans une décision récente qu'il est constitutionnel que la loi puisse prévoir des dispositions spécifiques en ce qui concerne les étrangers. La question est de savoir où l'on place le curseur entre ce principe et d'autres principes qui sont aussi surplombants.
Bien. Mais alors, quand même, sur la préférence nationale, il faut peut-être remonter au-delà ou en deçà des années 30. C'est Rousseau. Comment les hommes l'aimeraient si leur patrie n'est rien de plus pour eux que pour les étrangers et qu'elle ne leur accorde que ce qu'elle ne peut refuser à personne. Et puis, je voudrais lire un philosophe, citer un philosophe américain tout à fait de gauche, Michael Walzer, dans Sphère de justice. Sans une politique d'admission et d'exclusion, il ne pourrait pas y avoir de communauté de caractère historiquement stable, des associations continues d'hommes et de femmes, spécialement engagées les uns envers les autres, ayant un sens spécifique de leur bien commun. On ne peut rejeter la distinction entre ceux qui sont membres d'une communauté et ceux qui sont étrangers. Abattre les murs de l'État, nos borders, ce n'est pas créer un monde sans murs, c'est plutôt créer un millier de petites forteresses. Tout cela, quand même, doit être pris en compte. Mais venons-en justement aux possibilités politiques d'une maîtrise de l'immigration. Vous avez fait référence à cette loi immigration qui a été votée en 2023, octobre 2023.
Oui, début.
Vous la citez.
Promulguée en 2024, début, oui.
Oui, donc elle a été votée à la demande du président de la République, qui a aussitôt saisi le Conseil constitutionnel, lequel l'a vidé d'une partie de sa substance. Je rappelle une autre décision du Conseil constitutionnel, celle du 6 juillet 2018, qui tirait de la devise républicaine un principe constitutionnel de fraternité interdisant au législateur d'ériger en délit, dès lors qu'elle poursuit des fins désintéressées, l'aide à la circulation des étrangers en situation irrégulière. C'est ainsi que le troisième élément de la devise de la République était retourné contre la souveraineté nationale. C'est assez étrange, cette fraternité, c'était bien celle-là. Donc, Que peuvent faire les politiques dès lors précisément que les cours, les différentes cours suprêmes, limitent énormément leur capacité d'action? Est-ce que vous pensez que cette limitation est bonne?
Alors, moi, je pas nécessairement. Faut rappeler que l'affaire de 2018, c'est l'affaire Cédric Héroux. C'était un agriculteur qui, tout à fait bénévolement, ramassait sur la route des Africains, au-dessus de Nice, l'hiver, il fait très froid, et les emmenait tout simplement dans sa ferme. Et ensuite, progressivement, sa ferme, alors qu'il ne les aidait pas à traverser la frontière. C'est ça qui serait illégal. Mais il avait tout à fait le droit de les accueillir chez lui. Ensuite, il a été cerné par les policiers. Il a eu deux procès pour délit de solidarité, il ne faut pas l'oublier, y compris en appel. Et finalement, c'est le Conseil constitutionnel qui l'a lavé de toutes ses condamnations au nom du principe de fraternité et aussi, bien sûr, de solidarité, puisqu'il portait secours à ces gens à qui il offrait le gîte dans sa ferme. On a eu une autre affaire également, à peu près en même temps, en Calabre, avec Domenico Lucani, qui était le maire de Riace, qui donnait du travail à des subsahariens et autres, qui étaient arrivés sur les côtes du sud de l'Italie, dans la coopérative qu'il avait été créée, qui a été démis de ses fonctions, qui a été passée en appel, et finalement, les tribunaux italiens ont abandonné puisqu'il était devenu tellement célèbre que maintenant il est devenu député au Parlement italien. Donc, à quoi ça sert, si j'ose dire? Moi, je crois que le vrai problème, c'est que les pouvoirs publics devraient abandonner leurs idées reçues. Les politiques de dissuasion ne dissuadent pas. Et ça, je crois que c'est très, très important. Si on leur retire, si on le voit à Calais, si on leur dit, vous n'avez pas le droit de travailler, vous allez vivre sous la tente dans le froid, on va vous mettre des plots dans les villes pour pas que vous puissiez camper, etc. Tout ça, ça ne dissuadera pas. Quelqu'un qui est venu à pied d'Afghanistan, il ne sera pas dissuadé. Il se dira, il y a 32 kilomètres entre Calais et Douvres, il y aura toujours 32 kilomètres, quelles que soient les politiques de dissuasion, j'essaierai de passer. Donc l'idée qu'on va leur supprimer l'accès à un certain nombre de droits, je rappelle que c'est Nicolas Sarkozy qui avait créé l'aide médicale d'État sur le conseil d'un certain nombre de médecins, parce que, qui n'était pas un homme d'extrême gauche, à ma connaissance, parce qu'on disait, si on ne les soigne pas, il y aura beaucoup plus d'épidémies dans notre pays. Et dans les débats qu'il y a eu au Sénat, il était question de supprimer l'aide médicale d'État, d'ailleurs qui est très très stable quant à son chiffre. Donc les gens ne viennent pas pour profiter, si j'ose dire, entre guillemets, des générosités de la France. Ils savent très bien qu'au début, ils n'auront aucun droit. Le parcours d'accès aux droits sera long et très difficile. Mais ils viennent parce qu'ils veulent la paix, du travail, une autre vie que celle qu'ils fuient en partant de leur pays.
Alors je vous repose la question, Nicolas Pouvoir. Si, comme vous le pensez, un contrôle des frontières est souhaitable, quelle est, dans l'état actuel des choses, la marge de manœuvre des politiques?
Alors, je dirais que dans le cadre conventionnel et constitutionnel actuel, les politiques sont réduits à réfléchir dans une logique que un ministre de l'Intérieur avait résumé par un anglicisme, qui est celle du benchmarking, finalement, du parangonnage. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dimensions de l'accueil et du séjour des étrangers sur lesquelles la France se rend comparativement aujourd'hui plus attractive que ses voisins. L'aide médicale d'État, dont le montant a quand même beaucoup augmenté sur 10 ans, et dont le nombre de bénéficiaires a triplé en 20 ans, est une singularité française par l'éventail très large, complet du panier de soins qu'elle prend en charge, c'est-à-dire tous les soins sauf les PMA et les cures thermales. La France est l'un des rares, si ce n'est le seul pays européen à avoir inscrit dans son droit le principe d'un hébergement inconditionnel des personnes, quel que soit leur statut de présence migratoire. On peut aussi jouer sur ces dispositions-là. Mais plus fondamentalement, si l'on veut aborder politiquement les grandes masses de l'immigration, on va vite se heurter à la jurisprudence de nos quatre cours suprêmes, finalement, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne, qui... pour ce qui est du Conseil constitutionnel, découvre, c'est le terme adapté, puisque c'est le terme qu'ils emploient à valeur constitutionnelle de manière régulière. Dans le cas de Cédric Héroux, je pense qu'on ne dit pas tout quand on le présente comme un simple humanitaire, finalement, qui aide des gens en détresse. C'est un militant de l'abolition des frontières. C'est évidemment son droit. Mais finalement, on a dépénalisé l'usage politique de l'aide au séjour illégal, parce que c'est bien de ça dont il s'agissait.
Et on a dépénalisé aussi le séjour irrégulier.
Bien sûr.
Ça, c'était sous le mandat de François Hollande.
Non, tout à fait. Et on en est à un tel stade aujourd'hui que, lorsqu'il m'arrive d'échanger avec des parlementaires, chaque initiative législative prise en matière d'immigration est précédée par une réflexion anticipatoire sur le côté « mais que va dire le Conseil sur telle virgule ?» On évoquait le sujet de la nationalité. Dans la lettre de la Constitution, le principe est clair, c'est la loi qui fixe les règles relatives à l'acquisition de la nationalité, c'est l'article 34 de la Constitution. Mais demain, si le gouvernement souhaitait, par exemple, réformer le droit du sol, on ne sait pas ce que serait la jurisprudence du Conseil constitutionnel malgré cette lettre apparemment explicite.
Alors justement, pour finir, parlez-nous du droit du sol, Catherine Hitzel-Leden, parce que vous en esquissez l'histoire, et cette histoire est très surprenante, puisqu'on apprend que c'est Napoléon qui a rétabli le droit du sang sous l'influence des philosophes des Lumières.
Absolument.
Alors racontez-nous tout
Alors le droit du sol, ce qui me surprend, c'est que les plus à droite de notre échantillon politique veulent le supprimer, alors que c'était le droit de l'ancien régime. C'était le droit qui attachait le paysan à la terre, c'est un héritage féodal, et c'est les Lumières qui ont dit que le droit du sang était beaucoup plus individualisé, donc il fallait instaurer ce droit du sang dans l'acquisition de la nationalité. Et Napoléon Ier, qui, en appliquant un certain nombre d'idées des Lumières dans son code civil, en 1804, a établi le droit du sang. Ensuite, la France manque de soldats, surtout dans la perspective qui s'est malheureusement vérifiée de la guerre de 14, donc elle va ouvrir le droit de la nationalité en proposant à des gens qui sont nés sur notre territoire de devenir français, pas le jour de leur naissance, comme aux États-Unis, en Angleterre ou au Canada, mais au bout de leur majorité, c'est-à-dire 18 ans, à l'époque c'était 21 ans, et maintenant les parents peuvent demander, si les enfants ont vécu 5 ans de façon ininterrompue sur notre territoire, à partir de l'âge de 13 ans, donc pour entrer dans la procédure de ce droit du sol, et les enfants eux-mêmes peuvent demander dès l'âge de 16 ans si de façon ininterrompue ils ont vécu sur le sol français. Donc on n'est pas du tout un pays de droit du sol comme le pensent certains. Il est conditionné à une durée et à une résidence ininterrompue sur notre territoire, et c'est plutôt une bonne nouvelle, si j'ose dire, puisque avec les propositions de modification qui ont eu lieu en 1988, une commission qui a échoué, ensuite finalement Madame Guigou est revenue sur l'ancien équilibre droit du sol, droit du sang. Il y avait eu d'autres modifications de la nationalité.
Il y a eu un moment, le droit, il fallait manifester un acte de volonté.
Voilà.
Hein, c'était ça d'ailleurs, cette commission.
C'était ça dans la période intermédiaire entre 93 et 98.
Et avec Nicolas. Avec Madame Isabelle Guigou, on est revenu à l'automaticité.
C'est ça. Parce qu'on s'est aperçu que c'était très difficile à gérer, demander aux gens, aux jeunes d'ailleurs, de se manifester. On leur rappelait dans leur lycée qu'il fallait qu'ils se manifestent. Certains oubliaient. Il fallait aller jusqu'au tribunal d'instance pour demander, ou à la préfecture pour demander l'accès à la nationalité française. Et donc finalement, on a abandonné cette procédure qui semblait très très lourde,
à gérer. Voilà. Mais en tout cas, ça veut dire
certains proposent de le rétablir.
Le droit du sol, en tout cas, n'est pas un grand principe républicain. Vous l'avez très bien montré,
c'est très
intéressant.
Et surtout, tous les pays européens, sauf l'Italie, aujourd'hui, entre 1990 et 2000, qui étaient des pays régis par l'ancien code civil napoléonien, qui étaient des pays de droit du sang, dont l'Allemagne, ont établi aujourd'hui, prenant conscience qu'ils étaient des pays d'immigration, l'équilibre à la française, droit du sol, droit du sang, tous.
Équilibre, c'est une vraie question, mais celle-là, malheureusement, nous ne pourrons pas l'aborder parce que l'émission se termine et je regrette, j'avais toute une batterie de questions à poser encore. Je rappelle, Catherine Hitzel-Leden, le titre de votre livre, Immigration, Indifférence, Indignation, Déshumanisation. Le livre est publié aux éditions Autrement. Merci à tous deux. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Olivia Branger. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Les rêves et les cauchemars de l'intelligence artificielle. Mes invités seront Raphaël Dohan et Éric Sadin. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.